Bonjour et bienvenue à Histoire de sang.
Oh non!
Nous avons des problèmes dans les studios, non? Qu'est-ce que ça va?
Oh,
le 93NTM après la radio d'assaut. Le bâtard est baïonné. Alors S, envoie la purée.
Wouh! Donc, rebonjour et re-bienvenue. On vient d'avoir un petit incident, mais on est de retour. Les coupes de vin sont remplies. On est prêts. C'est Rose à la barre aujourd'hui avec nul autre que...
Maïté.
Maïté! On n'a pas dit nos noms de famille cette fois-ci. Je pense que c'est parce qu'on commence à être plus confortable. Cette semaine, on reçoit avec nous, et là, ça enregistre pour de vrai, oui, on reçoit Antoine Bouchard-Marchand. Et j'ai confirmé que ça enregistrait parce qu'on vient d'enregistrer un bon
10-15 minutes.
Sans que ça enregistre. Donc, si jamais vous sentez que les blagues sont moins senties, parce que c'est la deuxième fois qu'on les fait. Antoine, bienvenue.
Allô.
Ça va
Merci,
bien?
Merci, oui, vous autres.
Mais là, ça devient comme un peu malaisant. C'est la deuxième fois qu'on l'enregistre. Fait que ça fait deux fois qu'on fait comme « Bienvenue, Antoine! »
On est vraiment contents de te recevoir.
Fait que là, Antoine, question brise-glace. pour la deuxième fois. Pourquoi as-tu choisi d'étudier en histoire?
J'ai choisi d'étudier en histoire parce que j'aime cette matière-là depuis...
Faut que tu fasses comme si c'était la première fois, Antoine.
Ah, gang, je suis vraiment content que vous me posiez cette question-là, là, parce que moi, l'histoire, j'aime ça depuis le primaire, là. C'est ma matière préférée depuis que j'étais au primaire. Puis, en plus de ça, j'ai toujours aimé voir mes enseignants enseignantes devant la classe être bon et bonne, là. Puis ça m'a donné envie d'être enseignant. Puis, regarde, enseignant d'histoire, ça, c'est ce que ça me tente de faire.
Yes!
Fait que là, t'es rendu au deuxième cycle. Qu'est-ce qui t'amène jusqu'au cycle gradué?
Qu'est-ce qui m'amène au cycle gradué? Ben, regardez, gang, je fais ce qu'il faut pour être prof au cégep et non pas enseignant au secondaire. J'aimerais bien ça commencer ma carrière au secondaire, mais je veux faire carrière au cégep, donc ça prend une maîtrise.
Puis, moi, je vote,
pourquoi?
Mais on fait un autre balado. Mais sur l'expérience d'enseigner au secondaire.
Ouais, je t'ai dit, mais je te graine ça pendant un méchant bout.
Mais ça pourrait être un épisode spécial. On a fait un épisode spécial sur les archives qui va paraître, est déjà paru en fait, mais qui est à paraître pour nous dans le temps présent. Donc ça pourrait être un épisode spécial, on s'en rejase.
Tu fais ce qu'il faut en quoi?
En histoire?
Oui, oui.
Mais encore,
c'est quoi ton sujet?
Ah, ok. Ben, mon sujet de recherche, c'est pas le sujet que je vais vous présenter aujourd'hui. Moi, je m'intéresse plutôt aux représentations qu'ont les jésuites des pratiques alimentaires des Chinois de la région de Suzhou. C'est juste à côté de Shanghai, à peu près 80 km. J'espère que je dis pas de bêtises, mais de toute façon, c'est ça. Durant la première moitié du 20e siècle. Donc, là, il est question de... On a 93 jésuites en Chine, ils viennent un peu tous du même endroit, culturellement parlant, puis chronologiquement parlant, donc ils ont un peu tous la même façon de penser. Puis comment est-ce qu'ils considèrent les pratiques alimentaires des Chinois et comment ils les diffusent une fois aux Québécois à travers des sources littéraires et blablabla.
Wow!
Ouais.
Mais la question,
Mais vas-y.
Non, mais ok, je peux... Non, mais il faut spécifier aussi qu'on est dans une salle non ventilée.
Il fait chaud.
Pour ceux qui sont venus à l'Université Laval, en fait, dans le Deconinck, qui est le pavillon des... où on est...
Des mal-aimés.
Oui, le pavillon des mal-aimés. En fait, l'association étudiante d'artefacts où on enregistre, c'est un petit bunker qui a été mis dans...
Mais mon bureau, il est juste à côté. C'est Relation Québec-Chine. C'est le même cubicule, mais sans déco. Puis un éclairage vraiment moins le fun.
Moins le fun que les néons.
Moins le fun. Ouais, ben, il marche mal, genre. Fait que je vais jamais étudier là.
Ouais, je sais.
Mais j'ai pas envie de passer de commentaires négatifs, là. C'est le fun qu'on ait des bureaux, mais.
Mais les bunkers, c'est vraiment chaud. Comme ça paraît, c'est pas ventilé. Moi, j'ai un bureau ventilé. Je vais pas flexer, mais aller.
Il est où ton bureau?
Juste ici à côté également. Je pourrais te le montrer en sortant.
Ouais, je le sais, je voulais que tu nommes le nom.
Upscale. Mon bureau à l'Institut d'études anciennes et médiévales.
Oh, bon. De l'Université Laval.
Donc, si jamais vous avez des questions sur l'Antiquité, hit me up. Je sais pas pourquoi je parlais de ça.
C'est parce que moi, j'ai dit qu'il faisait chaud, je pense. C'était mal ventilé, fait que toi, tu faisais juste...
Je faisais juste effondrer dans un bunker.
Ouais, non, tu faisais juste toi qui étudies en Antiquité un peu pompeuse. Mais c'est correct, on va continuer. Parce que là, oui, tu fais ta maîtrise sur les pratiques alimentaires blablabla.
Mm-hmm. Oui.
Mais tu viens de nous parler de quoi aujourd'hui?
De pas du tout ça.
Je viens
vous parler de l'émergence du hip-hop à Paris entre 1978 et 1997, qui est à la base un cours que j'ai suivi à l'hiver 2022 dans un séminaire d'histoire à la maîtrise avec M. Pierre-Yves Saunier, qui, soit dit en passant, vous souhaite bonne année. Parce que là, ça fait un bout que j'ai pas parlé de hip-hop. Puis je me suis dit, à certains moments, « Hey, voudrais-je faire un petit refresh de mes connaissances? » Puis j'ai écrit à Pierre-Yves. Puis c'est ça, il m'a dit, « En passant, Antoine, souhaite bonne année à la gang de projets de mémoire. »
Fait qu'à Magali.
À Marie-Thérèse.
Ah, oh, c'est pas Magali?
Magali aussi.
OK, il t'a débattu
plus qu'une fois.
Monsieur Saunier, je l'adore, mais il se souvient jamais de mon nom.
Puis en plus, Monsieur Saunier a la réputation de...
Retenir.
De se rappeler tout le monde.
Sauf moi.
Sauf toi.
Sauf moi, mais c'est pas grave. Ça a été quand même un super beau séminaire que j'ai fait avec Antoine, mais il faut souligner que moi, je l'ai fait durant mon bac. Donc, Antoine a pu faire son séminaire à la maîtrise. Moi, j'ai fait la même chose qu'Antoine, mais ça me comptait pour des crédits de bac.
C'était un séminaire pluricycle.
C'était un séminaire...
Pis faut le dire, le travail final gagne, c'était un synopsis de documentaire historique. Fait que dites-vous que là, j'ai essayé de faire un documentaire historique sur le hip-hop, fait que c'était vraiment flyé comme travail, pis c'était super le fun.
Ouais, ben moi, je faisais ça sur des robes de 1850.
Puis j'ai manqué ta présentation, t'en souviens-tu?
Ouais.
J'ai sorti.
T'es sorti aux toilettes.
Parce que, non, il y avait un courtier immobilier qui m'a appelé. J'étais comme, faut que je réponde.
On est dans les souhaits de bonne année. immobilier, plein de projets. Mais bon, OK. Retournons à nos moutons.
Ouais.
Mon Dieu, là, en plus, je fais des rimes. Peut-être que plus que mon verre de vin va descendre, plus je vais peut-être parler en prose, ou peut-être pas.
On est dans le rap, là, un peu.
Ouais, peut-être que d'ici la
rythme
fin,
et poésie.
Tu vas parler tellement vite, tellement rythmé, que tu vas faire un rap.
Mais je parle déjà vite.
Tu vas drop
mais
des bars.
Rythmé.
Je parle déjà vite, peut-être que je vais parler rythmé. Mais là, parlons de pourquoi tu as choisi ce sujet autre que le séminaire de Monsieur Saunier.
J'ai choisi de me gâter, de sortir un peu de... Moi, j'appelle ça de même, là. Je veux sortir un peu de mes chinois. Puis j'avais le goût de me faire plaisir puis de parler de quelque chose que j'aime beaucoup, la musique et la musique hip-hop. Puis un peu essayer de voir à travers cet art pluridisciplinaire-là un mouvement culturel qui dénonce la relation colonie-métropole qui a déjà existé et qui existe encore. Je pense que les hip-hoppers et les hip-hoppers, c'est des porte-paroles puis des porte-étendards de les mots me manquent, de la misère sociale qu'ils subissent.
Puis d'ailleurs, tantôt, on a mentionné, quand ça n'enregistrait pas encore, la différence entre le rap et le hip-hop.
C'est
donc,
vrai.
étant donné qu'on est encore au début de l'épisode, je pense que c'est une bonne spécification à faire. Là.
Le rap, c'est un volet du hip-hop. Puis certains auteurs et autrices considèrent le hip-hop comme étant constitué de trois volets, mais moi j'en ai rajouté un quatrième pendant mon cours avec M. Saunier, puis ça n'a pas eu l'air d'avoir posé de problème. Les volets sont la musicalité, donc le son, le scratching, le DJing, le beat, il y a plein de manières de l'appeler, puis chaque manière de l'appeler, ben, ça souligne une idée précise. Et le volet vocal, donc le rap ou le slam. Ça, c'est le côté musical. Le côté danse, bon, là, on a du smurf, du breakdance, du electric boogie, ou du moonwalk. Il y a plein de danses différentes dans le hip-hop. Puis là, il faut garder en tête que c'est un art... ceux qui s'adonnent à cet art-là viennent d'un peu partout dans le monde, d'anciennes colonies françaises. Mais donc, il y a des traits identitaires qui paraissent dans leur danse ou whatever. Ça, c'est à jamais perdre de vue. Le troisième volet, c'est le graffiti. Et mon quatrième volet, c'est le vêtement et ben, la tenue vestimentaire et le look. Les cheveux, la barre dans le sourcil rasé, le look.
C'était pas une trend TikTok, ça?
Ben oui, mais moi, je trouve ça beau. Je trouve ça cool. Puis ça arrête de revenir. Fait que, ah, t'es intéressant. Puis. J'ai goût de spoil la dernière question, là.
Non, non,
le hip-hop de...
Non, non,
chut. Ça s'en vient. Il y a des gros trucs qui s'en viennent.
Oui, mais il faut attendre la fin. C'est si ça. On est comme... Ouais.
On est chronologique.
Exactement. C'est ça. Parlant de chronologie, tu t'intéresses à une période spécifique de 78 à 97. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce choix-là? Je ne referai pas la même blague que dans le premier.
Ce n'est pas ta date de fête. En 97 qui marque la fin de ma recherche. La fin de ma recherche est marquée par la chanson 11-30 contre les, parce qu'il y a un truc ça va venir 11-30 contre les lois racistes. Puis cette chanson là c'est 11 minutes 30 de pur je t'arrache la face parce que j'ai de la haine. Puis c'est à peu près je les ai pas compté, mais c'est à peu près 9 10 11 rappeurs qui ont un espèce de temps alloué dans cette chanson là. Puis ils dénoncent une à une des lois qu'ils ont sélectionnées. Puis la chanson commence par loi Joffre, Pasqua, Debré. En tout cas, il y en a plein. Une seule logique, la chasse à l'immigré. Puis là, ça part, puis c'est explosif. Donc ça marque la fin de ma recherche. J'ai failli prendre 95 parce qu'il y a le film La Haine qui est sorti. J'ai failli prendre 99 parce que là, il y a 16-30 contre la censure. Même principe. Ou 2000 pour dire « Ah, mais là, on change les cycles, comme Marie-Thérèse. » Mais il t'a dit.
Non, mais 2000, j'étais comme « Ah, mais pour ma fête, tu sais, c'est
ah, si vrai, fête, t'es un petit bébé 2000.
2000, Marie-Thérèse était un bébé.
Puis, bon, puis aussi, je voulais un peu signifier le moment de transition entre le moment que le hip-hop est underground, puis on passe à un virage, il remporte le pari commercial qu'il voulait ou à quel point il voulait, en tout cas peu importe. Puis le début de ma recherche, c'est 78, c'est un précurseur du hip-hop, selon moi, parisien, c'est le DJ Dynasty qui part aux États-Unis, il va à New York, à Los Angeles, parce que là, ça commence à se passer, là, c'est l'émergence du hip-hop américain, puis Dynasty est un peu au courant de ça, puis il s'intéresse à ça, puis il effectue 2-3 voyages. Puis son premier, si je ne m'abuse, c'est vraiment 78. Puis c'est ça le début de ma recherche et un peu le début du hip-hop à Paris.
C'est super intéressant, tu sais, comme je t'écoute. Puis.
Ça te rappelle les souvenirs?
Ben, premièrement, oui. Parce que je t'ai entendu comme évoluer sur ce sujet-là. Puis sincèrement, oui, comme notre présentation dans le séminaire, c'était comme un peu de présenter nos connaissances acquises, mais pas tant que ça. Mmh. Fait que c'est quand même le fun de voir que t'es partie d'un sujet qui te passionnait pour pouvoir en parler comme... En tout cas, bref.
Ouais, puis, merci à ma mère qui m'a acheté le CD The M&M Show en 2005. Ça a été le début d'une longue histoire d'amour.
Wow!
Ça fait 2 podcasts que je remercie ma mère en direct. Je sais pas si vous en rappelez.
Mais c'est correct! De quoi?
Une fois, quand votre invité, Monsieur Gabriel Royer...
Oui.
Présentait, vous cherchiez le nom du film Mon fantôme d'amour. Puis là, ça sortait pas. Là, vous étiez genre, oh my god, c'est quoi le film? Puis là, j'ai.
C'est vrai, on t'a déjà reçu, l'enfant, sur le balcon.
Ouais, mais j'avais pas d'affaire.
T'étais juste là pour le.
Pour voir.
Pour le fun.
Mon bro déployer son savoir. Vous saurez pas pourquoi j'ai salué ma mère à ce moment-là. Si vous voulez, vous écrirez des commentaires puis vous irez liker la page Histoire de Saint-José.
Ouais, likez notre page, tabarouette.
10 likes puis je vous le dis.
Puis 20 likes puis c'est ta vidéo de twerk.
Hi, boboy. Ben le twerk, c'est une danse, c'est pop. Si je peux. J'ai réponse à tout.
Tu veux-tu en parler là?
Ben, j'ai pas grand-chose à dire sur le twerk, mis à part que aujourd'hui quand on pense au twerk, ben je m'excuse si c'est moi qui pense ça, là, mais je pense que je suis pas le seul. Là. C'est un peu un caractère sexuel, mais le twerk, ça a rien à voir avec de quoi de sexuel. Quoi, êtes-vous d'accord ou pas?
C'est parce que moi j'ai pensé à Miley Cyrus en fait.
Moi j'ai pensé à Nicki Minaj tout de suite.
Puis c'est des femmes qui se sont adonnées au hip-hop, qui s'adonnent encore au hip-hop. Hip-hop, 2K20, 2K blabla, puis...
C'est quoi 2K20?
Ben 2020, là, okay. Je parle, là, je mets...
C'est des affaires de
jeunes. Yo, hey, c'est ma dité la plus jeune, mais... Ouais. Mais le toi, peu importe, j'avais écouté plusieurs... J'ai vu plusieurs vidéoclips ou documentaires dans les débuts du hip-hop. Même avant ça, que le toi, c'est juste une danse pour avoir du plaisir, puis se bouger, se déhancher, là. Puis tu voyais une famille puis il y avait les mamans qui étaient comme twerk, 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 puis c'était genre leur enfant de 4-5 ans, puis il était comme ouais, 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 puis il y avait pas une tension sexuelle, là. C'est juste let's go, remue-toi, puis c'est ça. Puis c'est devenu sexuel, pourquoi? Mais en même temps, c'est.
Ah, oh, ben parce que c'est des.
C'est des fesses qui remuent.
Je pense qu'on peut comme.
Ouais, faudrait. Je ne sais pas si c'est plus les femmes ou les gars qui ont plus.
Je pense que c'est. Je pense que. Ben, j'imagine que le twerk, c'était plus dans les communautés. Ben, minoritaires, là. Entre autres, les noirs.
Ouais. Ben, les vidéoclips que je voyais, ça évoquait ça, du moins.
Tu sais, si on pense à Elvis Presley, ou mm-hmm. Elvis Presley, je ne sais pas comment le dire, mais. Soit l'accent québécois ou l'accent anglophone.
Presley.
Presley. Mais Elvis, tu sais, il se déhanchait le...
Ouais.
Les
genoux pis les hanches, là, c'est...
Pis ça, c'était full sexuel, là. Pis ouais. Comme, on veut pas que ces filles aillent voir des shows d'Elvis parce que c'est trop sexuel. Fait que j'imagine que c'est comme une affaire de pudeur blanche, là.
Ben, pis on peut relier ça. Ouais, pis je sais peut-être. Pas jusqu'à temps que le... C'est parce que je connais pas tant la vie de Elvis.
T'as pas été voir son film?
Je suis allée voir le film, fait que je me dis, bon. Oui, mais ils ont quand même fait un lien quand même assez évident là, dans le film de la connexion qu'Elvis avait avec des communautés qui étaient plus racisées afro-américaines. Mm-hmm. Et puis là, c'est plus comme l'époque du rock, là, comme c'est le début, 50. C'est ça. Mm-hmm. Mais puis il y avait quand même justement des mouvements qui choquaient la communauté blanche. Fait que je pense que la musique, c'est malgré que là, on parle du hip-hop, puis Elvis, c'est du
il y a des liens à faire.
Ouais, vraiment.
Avec, je sais pas si c'était dans le partie 1 ou dans la partie 2 que je parlais de
non,
hippie.
Mais parlons-en là.
C'est en tout cas, là, c'est notre mémoire qui fait défaut, mais vous savez, là, tantôt, pendant 15 minutes, on parlait dans le vide. Puis j'avais un peu dit que le hip-hop suit l'idée, il reprend le flambeau de la musique hippie qui avait un projet de rénovation sociale puis de vouloir éliminer la violence raciale, économique, crise de chômage, ça record là. Ok, oui. Let's go. Je voyais Rose à regarder, dévisager l'enregistreur. C'est.
Notre enregistreur hyper techno.
Mais
rajoutons-le.
Oui.
C'est un Tascam. Puis ça ressemble tout droit à quelque chose sorti de la
guerre. Il y a deux micros, puis on est trois. Fait que faites ouais. Le calcul. Mais peu importe, le hip-hop reprend le flambeau. De la mission que les hippies s'étaient donnée. Puis...
Fait que pour toi, tu vois vraiment le hip-hop comme un mouvement social à Paris.
Ouais. Ouais.
Pourquoi? Tu sais, à cause de, justement, sa reprise du flambeau du mouvement hippie ou pour autre chose?
C'est une question profonde. Ben,
hein? C'est une question profonde. Tu peux y penser.
Ouais, ben j'y pense, mais pas trop, là. Mais il y a des... La misère sévit dans les cités de Paris. Puis comme partout, dans toutes les grandes villes, les banlieues, whatever, il y a comme une espèce de spatialisation. On met tel type de gens-là, tel type de gens-là.
Ça, c'est vraiment intéressant. Moi, dans mes recherches sur l'Antiquité, là, ça n'a aucun rapport avec ce dont on parle en ce moment, mais étudier le rapport à l'espace puis l'occupation mm-hmm. de l'espace en fonction des gens aussi, moi, je trouve ça vraiment fascinant parce que c'est vrai qu'au final, même si, par exemple, maintenant, on est tous dans un centre d'achat, on occupe tous l'espace du centre d'achat différemment, dépendamment de notre âge, de notre genre.
De quelle
genre,
boutique on rentre, peut-être
de
bien?
De quelle boutique, de nos goûts, de nos... tu sais, de tout plein de choses. Ça fait en sorte que, finalement, c'est comme des espaces, des espèces de free space, mm-hmm. où tout le monde se retrouve, mais tout le monde est extrêmement différent, puis c'est là qu'on voit le plus la différence aussi. En tout cas, je trouve ça vraiment fascinant, c'est les trucs de rapport à l'espace, là. Puis ça, c'est un peu... Justement, tout le monde habite Paris, mais tout le monde habite Paris de façon vraiment différente.
C'est vrai, puis le rapport à l'espace, admettons, si on parle de rapport à l'espace slash rap et pop slash États-Unis, mais là, on va voir que le bagage ségrégationniste, le rapport... Attendez, quand je pourrais dire ça? La population entretient des liens avec son histoire. Donc là, l'histoire des États-Unis, le hip-hop va répondre à tel critère, puis ça va transparaître à travers leur art. Puis versus, je vais tomber penser esclavagiste, ségrégationniste, les
ben,
bus.
L'oppression,
c'est
là,
ça.
Finalement.
Puis si tu t'en vas à Paris, mais là, ça va être l'idée colonialiste. Fait qu'on veut une... aux États-Unis, on vous met là, puis vous restez là. Tandis qu'en France, à Paris, du moins, de ce que j'ai remarqué, c'est qu'il va y avoir une langue, ça va être le français, fait que tu vas t'acclimater à nous. Tandis qu'aux États-Unis, on voyait pas vraiment l'idée de « tu vas t'acclimater », c'est « non, toi, tu prends ton trou ». Fait que ça transparaît dans le déploiement artistique aux États-Unis, puis ça transparaît dans le déploiement artistique à Paris, Qu'est-ce qu'on retrouve à Paris, qu'est-ce qu'on trouve aux États-Unis. Je sais pas comment trop l'expliquer, mais...
Mais si je comprends bien, mettons, c'est qu'aux États-Unis, finalement, on promouvoit comme deux cultures séparées.
Ouais, complètement. C'est carrément.
Fait que c'est pas nécessairement tu vas t'acclimater puis tu vas parler en anglais tout le temps. C'est plus tu vas vivre ta vie dans ton quartier. Quand tu vas venir travailler, tu vas parler en anglais, mais chez vous, je m'en fous.
C'est ça, ouais.
Parce que t'es loin de chez moi, de toute façon. Puis en France, c'est plus comme... Ici, on vit, veut pas, ensemble. Tu vas parler exactement comme moi. Tu vas faire exactement comme moi. C'est
tu vas t'habiller comme nous. Tu vas parler comme nous. Tu vas faire un trait sur ton identité culturelle.
Tu vas oublier t'es qui, puis tu vas devenir moi.
C'est ça. Mais c'est pas ce qu'on va retrouver aux États-Unis.
Mais puis il y a aussi une... Puis là, je me rappelle de ce que Saunier nous a demandé de lire pour ce séminaire-là, mais il y avait aussi une idéalisation de Paris dans ces, admettons, dans les cités. Ben, les cités, mon Dieu, on n'est pas en Grèce.
Non, mais c'est des cités.
Mais c'est ça,
des cités. Ou des Tessies en verlan.
Ben, des cités comme, oui, mais comme entre les cités Paris, mais aussi entre le pays, admettons, d'origine de l'immigrant et Paris.
Ouais, on avait fait le contraste sur l'idée que Paris, c'est donc merveilleux.
Puis comme, admettons, dans Émilie à Paris.
Ouais,
Saunier nous a aussi... On avait un devoir sur Émilie à Paris, je dois juste vous le dire.
C'était excellent.
Ouais, on est allé prendre une bière au Fou, puis on devait...
Le cours est terminé plus tôt. Ouais. Parce qu'au début de l'année, M. Saunier dit « Ah, moi, tiens, moi, pourquoi je prends sa voix, je sais pas. Moi, je suis spécialiste de l'histoire de Paris, blablabla, de telle année à telle année, je m'intéresse à ci, ça, ça. » Puis là, il commence à parler d'Émilie de Paris, puis il dit qu'il l'écoute par... simple but professionnel, parce que ça parle de Paris. Donc, en tant que professionnel de Paris, il faut que tu sois au courant de tout.
Exactement. Puis, en fait, on est allé au bar pour créer une troisième saison d'Émilie à Paris.
C'est ça.
Qui est maintenant
parce qu'elle venait... Ouais, c'est ça. Là.
C'était pas du tout
à ce moment-là, la deuxième saison venait de finir.
Mais personne l'avait écouté, moi et Saunier.
Non, moi, je l'ai pas écouté, ouais.
Fait que j'étais la seule qui était en équipe avec Saunier.
C'était quoi le travail à faire? Tu t'en souviens-tu?
Ben, c'était de créer une troisième saison puis savoir qu'est-ce qui allait se passer.
À partir de quoi?
Paris. Ben, à partir de ce qui s'était passé dans Émilie à Paris.
Ouais, mais là, ça, c'est un problème. Mais nous, qu'est-ce qu'on devait faire?
Ben, c'est ça.
T'en souviens-tu? Non, il fallait... Chaque personne devait écrire un mot. Chaque personne devait écrire un mot. Moi, je me rappelle juste du mot Barbès. Puis Barbès, c'est genre une banlieue parisienne. Et le groupe Sniper vient de là, il en parle beaucoup, me semble. Puis là, bon, Barbès, mettons, quelqu'un aurait pu écrire Chalumeau. Fait que là, il fallait que tu parles d'Émilie à Paris avec tous les mots qu'on retrouve sur la table.
Oui, oui,
puis c'était des équipes, il fallait s'affronter. Puis c'était la meilleure...
Mais c'est clairement Saunier et moi qui a gagné.
Moi, je me rappelle plus, j'étais avec
non,
qui.
Non, toi, t'avais pas fini ton texte. C'était déjà ta troisième bière, Antoine.
Ah, j'étais quand même... Ouais. Mais j'étais... Comment il s'appelle?
Ouais.
Tanguy, j'étais avec Tanguy, puis on avait vraiment du fun, mais trop de fun.
C'est ça, trop de fun, pas assez de voir, mais...
Ouais.
Revenons au sujet.
Qui okay? est quoi, oui. déjà?
On parlait de, en fait, l'idéalisation de Paris.
Oui, bon. Dans beaucoup...
Pas de Émilie à Paris.
Ouais.
Même, je dois vous dire, tout le monde, la troisième saison, très décevante. Le pregnancy trope, là.
Je l'ai vu du coin de l'œil, je sais pas.
Mais bon, continuons. On pourrait changer de sujet.
Comme?
Mais pas tant changer de sujet, mais j'aimerais ça qu'on parle de, j'allais dire, Paname.
Ah.
Paname.
Oh, Paname.
Ou Paname pour les personnes qui ont lu.
Mais c'est parce que si on parle tout de suite de Paname, on va reparler de M. Saunier. Là.
Ben, c'est correct. C'est pas grave. On va dire, mais c'est quoi la différence, en fait?
Avant de passer au sujet suivant, je vais finir avec le précédent quand même. L'idéalisation de Paris, on pense que Paris, c'est une ville de l'amour, des opportunités, de tout et tout. Mais quand tu te penches sur le hip-hop, à travers ses arts, la musique, la danse, le breakdance, le graffiti et le vêtement, à travers tous ces volets-là, il y a une contestation de Paris qui dit au final que c'est pas si jojo que ça à Paris. Il y a même un rappeur qui s'appelle Doc Gineco qui dit « Ici, tout est gris, ça s'appelle Paris ». Puis il parle d'une espèce de nostalgie qu'il a malheureusement pas connue, mais il sait que ses parents viennent de Guadeloupe, puis il est allé à quelques reprises, puis tu sais, en Guadeloupe, ça donne l'air merveilleux. Ici, c'est la mort, j'ai aucun plaisir, je suis persécuté. Puis il y a des rappeurs qui disent que Paris, c'est donc une ville que tout le monde veut visiter, puis que ben nous, au final, on veut juste la fuir, ou du moins la faire sauter.
Mais c'est vrai aussi que, comme, il y a une idéalisation de Paris, parce que je me souviens de mon premier voyage, moi aussi, comme...
C'était à Paris?
Non, mais je suis allée en Europe, là, okay. pour mon premier voyage, puis... La ville, évidemment, d'accueil, c'était Paris, parce que Quand tu pars de Québec, c'est aussi rassurant, on dirait. De, on entend le vin qui coule. Je sais pas si on l'entend au micro, mais moi, je l'entends. Ben, si on parle de Paris, il faut bien parler de vin. Mais quand tu pars de Québec, généralement, Paris, c'est comme une terre d'accueil familière parce que ça parle français.
Ouais, bref. C'est...
Mais quand je suis arrivée, je me souviens que j'étais partie avec... ce bagage de Paris-là qu'on voit dans les... Tu sais, avec l'espèce de couleur dans les films, là, qui est comme un peu sépia, genre. C'est comme des couleurs toutes douces. Oui, ben, mais ça, c'est pas Paris, par exemple. C'est Monte Carlo, pas pareil.
Ben oui, mais...
Le film s'appelle Monte Carlo.
Ou le film s'appelle Monte Carlo avec Selena Gomez, mais il y a une idéalisation de Paris.
Oui, mais...
Oui,
ce que je veux dire, Maïté... C'est que je suis arrivée puis j'étais bien déçue, OK? J'ai pleuré la première journée.
T'es allée quand?
Ben, Selena Gomez aussi était déçue.
Genre, t'as pas nommé la date à laquelle t'es allée?
En 2015, okay. Pendant, d'ailleurs, la crise des réfugiés en Europe, là, puis qu'il y avait de l'armée partout dans les rues.
Ouais. Quel mois?
Tout l'été, je suis allée
Tout l'été? Mais c'est en novembre 2015 que...
Mais ça s'est répercuté pendant l'été. Il y avait l'armée dans les rues partout. Puis c'était la canicule pendant l'été aussi, fait que c'était chaud
dans tous les sens du terme.
Puis j'avais mal réservé mon auberge jeunesse, faut vous dire, il y avait du caca dans la douche quand je suis arrivée.
Et boboy.
Ouais, j'ai vraiment pleuré comme.
Ben, t'es allé sur quelle plateforme? Hostel Booker. Qu'est-ce que t'as fait?
World. Mais j'avais mal checké, j'ai pris le moins cher là, puis c'est une erreur. Toutes mes autres hostels à Paris ont été très très bien. Si jamais vous avez besoin de conseils,
t'as-tu laissé un review?
Non, pas pour celui-là. C'était le début. Mais pour les prochains, en tout cas, si jamais vous réservez des hostels, vous pouvez m'écrire. Je suis vraiment calée. C'est Rose qui parle, je ne suis pas Maïté. mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que ce choc-là, encore maintenant, comme il y a tellement de choses par rapport à Paris dans les films hollywoodiens. Paris, c'est toujours dépeint comme la ville où tous les rêves se réalisent.
Mon Dieu, il y a comme les verres de vin entre le micro, fait que c'était sportif. Mais en effet, je voulais juste comme répondre à ce que tu dis parce que on a beaucoup parlé avec Sonia, tu sais, notre professeur avec qui on a fait le séminaire, si les gens oublient. Mais on a parlé comme de Paris comme une terre de promesses, une terre d'échanges culturels. C'est comme même au 19e siècle, c'était une terre comme qui était avant-gardiste. Puis on dirait que c'est resté figé dans la mémoire de plusieurs personnes.
Ouais, on a épluché tellement plusieurs thèmes de Paris, puis Paris, c'était toujours « wow » ou « ish ».
Ish, ben c'est ça, mais c'est surtout pour les communautés minoritaires ou racisées que l'expérience était « ish ». Parce que Paris, on l'imagine pas comme une terre d'accueil en tant que telle, en parenthèse, on l'imagine. Paris, on imagine un Parisien avec une moustache puis un pain baguette au bout du bras. C'est la caractérisation typique.
J'ai croisé un monsieur comme ça à Paris, je veux juste le dire. Il m'a d'ailleurs pointé dans la bonne direction. Mais ça existe.
Ben, shout out à ce monsieur. Oui, ça existe, mais Paris, c'est pas juste ça. Puis je pense que ton sujet, si on revient au sujet, est un bel exemple de démontrer ou de développer justement ce Paris peut-être un peu encore underground pour les personnes qui ne vivent pas à Paris. Donc, on pourrait peut-être passer à l'autre question ou tu as quelque chose à rajouter?
Non, let's go.
Parfait. Donc, pourquoi parler de Paname au lieu de Paris? Puis là, c'est pas Panem.
Non, c'est pas Panem.
Pas Panem.
Parce que, en fait, guys, je l'avais dit, non, le but de ce cours-là, c'était de faire un synopsis de documentaire historique. Fait qu'il faut que ce soit un film. Fait qu'il faut un titre punch, rapide, efficace. Puis moi, j'avais fait un espèce de gros titre pompeux à mon premier travail.
Un titre d'historien, là.
Trois lignes, deux points. Tu poses une question. Puis là, M. Saunier, il a dit ah, c'est très, très bon, mais, il faut que ce soit un film. Fait qu'il essaie de pas endormir la personne qui va aller voir ton film, là. Fait qu'il faut que ce soit punch. Et j'ai décidé de dire, de nommer mon travail « La voix du bitume crame Paname ». Donc, « La voix du bitume », c'est pas juste le rap. C'est la voix de toutes les arts présentes dans le hip-hop. C'est vrai que le rap, c'est celui qui est le plus verbeux parce que ça jase.
Bitume comme béton?
Ouais, parce que c'est des tours. Ben, c'est des tours, des cités HLM. On fait du breakdance au Hall de Paris sur l'asphalte, au sol. On fait des prouesses au sol. Le graffiti, on en fait sur quoi? Sur, certes, des trains, mais sur des tours, des logements, Puis le vêtement, bon, qu'est-ce que ça a de bitume? Il est peut-être fait pour les prouesses au sol, puis il déchire pas trop parce que le bitume, ça se crache le linge. Mais en tout cas, tu sais, c'est l'art du la voix du bitume, c'est tout ça. Puis ils doivent. Chaque or parle. Cramé, ça veut dire brûler. La voix du bitume, crame panam, ça veut dire le hip-hop prend Paris, puis il la massacre un peu, là.
Je pensais que t'allais dire crame, comme détruit par le feu. Fait que là, j'étais là, ben,
c'est ça?
Katniss Everdeen.
C'est quoi ça?
Ben non, mais Katniss Everdeen.
Hein?
Ah.
C'est elle qui a une presse puis qui met feu.
Ah, OK. Panem. Non, je sais pas. Je sais pas. J'ai pas écouté. On
moi,
en parlait tantôt.
C'est mon rôle de faire des référents culturels. Oups. Un peu boboche. Je l'ai faite. Tu sais, il faudrait peut-être que même que je fasse, tu sais, le son de...
Merci, c'est la seule fois, mais je l'ai même pas fait au complet, là. Mais
on peut enchaîner. C'est bon. Ou je t'ai trop déstabilisé avec...
Fait que pourquoi Panam?
Oui.
Panam, ben c'est ça. Les hip-hoppers... Les rappeurs, là, c'est vraiment question des rappeurs, je pense, et des rappeuses. Paname, c'est Paris. Paname, ça fait familier, mais un rappeur, une rappeuse, faut que ça rime. Fait que quand ça finit en âme, pourquoi pas dire Paname à la place de Paris? Fait qu'il y a comme une espèce de volonté de peut-être de nommer la ville par plusieurs noms pour que ça marche à tel endroit dans le texte. Puis ça faisait familier. Mais là, je me suis dit, il me semble que c'est pas terrible comme réponse. Fait que j'ai décidé d'écrire à M. Saunier. Quand est-ce que ça... Pourquoi Panam? C'est-tu proprement hip-hop? C'est-tu pas proprement hip-hop? Puis il a dit... tu sais, c'est nébuleux. Faudrait que je relise le courriel mot pour mot, là. Mais ça ressemblait à... On sait pas trop d'où ça vient. Fin 1800, début 1900, on commence à avoir des chansons qui a le mot Panam. Je veux revoir Panam ou mes souvenirs de Panam. Mais ça, c'est des trucs du genre. Fait que là, on a Panam dans des chansons, déjà. Là, j'ai dit, ouh, hey, ouh. Intéressant.
Chanson de Léo Ferré.
Ouais, Léo Ferré, c'est un nom que je connais, mais j'ai aucune idée à quoi il ressemble et qu'est-ce qu'il fait, mais j'ai déjà entendu son nom.
Ben, on pourra mettre une petite pause musicale maintenant.
Ouais.
Puis on va
ça sera pas du hip-hop, ça va être Léo Ferré.
Ça va être Léo Ferré, puis après, on mettra d'autres pauses musicales pour du hip-hop.
Panam, on t'a chanté sur tous les tons. Il y a plein de paroles dans tes chansons qui parlent de qui, de quoi.
Continue sur ton explication de Panam.
Mais j'ai la meilleure... Mais j'ai pas mal...
Je pense que c'était ça, son explication.
Ouais, mais non, mais c'est un peu ça, mon explication. Puis j'ai cherché. Puis Panam, est-ce que c'est proprement hip-hop? On dirait pas. Puis je sais pas, ça vient d'où, Panam? Puis M. Saunier, hein, tu sais, à chaque fin de texte, quoi de mieux que finir par une ouverture? Puis il m'a comme dit, ben, ça serait un beau sujet de recherche. De s'attarder à la présence du mot Panam dans les chansons. J'étais comme, ouais.
Ben, il y a un article du Figaro
ouais,
qui s'appelle « Mais d'où vient Panam? »
Ouais.
Ça répond-tu?
Je l'ai lu hier soir, puis ça répond pas.
Fait question de recherche, d'où vient Panam? Si on a des auditeurs parisiens, peut-être, si on s'est rendu là.
Merci, ben oui.
Merci de nous répondre.
On débarque sur Paris, là. L'histoire de Saint-José, là.
Ouais.
Ah ouais.
Voilà. On... Cram Panam. Donc, Antoine vient de se cracher son vin dans l'œil. mais on ouais. peut continuer. T'es ouais. en vie, tu t'en viens.
Ouais.
discutons sujet sérieux.
Ouais.
Oui. Quels sont les impacts un peu de cette culture hip-hop sur Paris quand ça débarque là, en 1978?
Ouais, fin 70. Ben, ça attire les jeunes. C'est un mouvement de jeunes, de banlieue, de cité, des immigrés ou des fils d'immigrés. Ou filles d'immigrés. Dans tous les documentaires, j'écoutais des fils, mais hey, c'est des filles d'immigrés.
On va dire immigrants ou immigrés.
Immigrants ou immigrés. On peut dire ça, mais je reprends les sources.
OK. Non, mais
ça se dit-tu? Parce que moi, dans mon travail, je disais fils d'immigrés.
J'ai l'impression qu'on disait ça.
C'est un autre moment. Ouais, c'est fini.
Et maintenant, on dit immigrant. Mais.
Immigrant. Non, mais t'as raison.
C'est une question légitime de. Je pense qu'on dit immigrant, mais si tu l'as lu dans les sources, à ce moment-là.
Ouais, j'ai lu dans les sources, puis on dirait qu'eux-mêmes, ils disent. Ils s'appellent de même eux-mêmes. Fait que là, il y a trois historiens qui parlent au micro, fait que. Des fois, ils font nous ramener à l'ordre.
Ouais, mais tu sais, peut-être. Dans notre simple ignorance,
ouais.
on le dit, puis
ouais, on
même. S'excuse si on est.
Ouais, ouais.
Si on n'utilise pas les bons termes. Mais il y a beaucoup d'historiens qui utilisent des mauvais termes aussi.
Ouais. Hein? Fait qu'il faut, ouais. Il y a du travail à faire là-dessus.
Mais si jamais vous le savez comme le terme à utiliser, on vous invite à le dire aussi dans les commentaires. mais s'il vous plaît. Mais moi, je pense que les deux sont corrects. Okay. Mais je pense que immigrer, ça justement, ça reflète peut-être plus une expérience aussi que immigrant. Vrai. Immigrant, c'est comme le terme que le gouvernement du Canada veut utiliser.
Mais j'ai pas dit justement immigrer ou fils d'immigré.
Ouais.
OK, c'est ça.
C'est ça, mais j'ai l'impression que immigrer, ça reflète.
OK, ouais, c'est OK, moi, je comprends.
Fait que si eux, dans les sources, ils se réfèrent à eux comme des immigrés, j'ai l'impression que ça reflète leur expérience en sol parisien, justement.
Vrai.
Mais bref, c'était une question.
Une question de même sur le fly.
Une question de même.
Mais c'est. Ça attire les jeunes qui ont envie de changement, et j'ai l'impression, pour ceux qui sont les enfants de ces immigrants-là, ils n'ont pas envie que ce schéma-là se reproduise. Ils ont une dent contre ce que leur famille a vécu, fait qu'ils veulent changer les choses. En même temps, ils sont mis à l'écart. Il y a une chanson, là, je ne suis pas capable de m'en rappeler mot pour mot c'est quoi qu'il dit, mais...
Ben on peut la mettre.
C'est de Supreme NTM. C'est sûrement « Quelle gratitude! » »« Quelle gratitude ai-je pour la France? » Puis qui disent à quoi bon genre me faire juger par ma couleur, mon ethnie, puis genre sans connaître mes compétences. Fait. C'est vraiment une volonté de... On veut renverser les choses parce qu'on subit des persécutions juste basées sur la couleur de notre peau ou notre âge, notre look. Fait que le hip-hop, ça permet... ça a vraiment un pouvoir rassembleur, unificateur. Qui conteste des trucs déjà établis, des persécutions sociales, raciales.
Quelle gratitude devrais-je avoir pour la France? Moi, Joe et Stark, on considère comme un barbare. Donc j'encule tous ces moutons de fonctionnaires, tous ces pédés de militaires. Qui pendant oui, presque plus d'une année, m'ont séquestré malmené sous prétexte de faire de moi un homme en vrai. Avec les couilles dans le béret, avec le cerveau dans le paletot et à la place du cœur. Une saloperie de rapport.
Fait que l'impact de la culture, c'est pas juste un impact, on pourrait dire, matériel avec les graffitis ou quoi que ce soit, mais toi, tu vois vraiment un aspect immatériel de la culture.
Ouais, on va... Le matériel serait le vêtement et le graffiti, parce que c'est physiquement visible et ça reste, c'est matériel. Mais on pourrait quasiment dire que la musicalité aussi, c'est matériel, mais on va... Mettons, dans le son, qu'est-ce que t'avais?
Mais je pense pas que la musicalité, c'est si matériel que ça.
Ouais, mais c'est ça, ça porte à débat, ouais.
Mais, encore une fois, ben, ça, on en a parlé dans un épisode qui a déjà paru, que nous, on a déjà enregistré, qui a pas encore paru, mais que pour nous, mais qui a paru pour les auditeurs. C'est comme
ça. Ouais.
Dans le fond, mais bref, on a parlé de l'immatériel puis du matériel dans les archives, mais l'audio, ça tombe dans l'immatériel parce qu'au final, ben, ça relève du numérique, puis pour nous, le numérique, en ce moment, c'est fixé. On le sait qu'on va l'avoir demain. Mais dans 55 ans,
c'est vrai. Ouais,
le numérique, on ne sait pas ce qui va en advenir. T'sais. Fait que ça reste de l'immatériel parce qu'on ne sait pas c'est quoi exactement sa teneur pour des générations et des générations encore, parce que c'est nouveau.
Mais on pourrait quand même négocier un peu ce fait-là, parce que même si, OK, on peut s'entendre que la musique, c'est immatériel, elle apporte une culture matérielle, par exemple. Puis là, reprends-moi, Antoine, là, si c'est mauvais ce que je dis sur le hip-hop, mais tu sais, les grosses caisses de son,
ouais.
Juste ça, c'est un vrai? Outil pour...
C'est vrai? C'est codé, ouais, mais ça fait-tu partie du look? Ça joue dans les deux terrains. Ouais,
je
ouais.
pense que...
Ouais, mais dans le immatériel, on va voir... Ben, il me semble que je l'avais un peu souligné tantôt. Dans les danses, admettons... si on vient de la Guadeloupe ou de la Martinique, on va peut-être voir des références, des mouvements propres à des danses autochtones, ancestrales de là-bas. Là, si on vient de l'Afrique subsaharienne, on va voir tel type de mouvement. Si on vient du Maghreb, tu sais. Fait que là, l'aspect immatériel dans la danse, ça va jouer sur la provenance des gens. Puis, dans le... Donc pour la musicalité, le chant, le rap, l'argot, les façons de parler, ça va, on va peut-être sortir des expressions qui viennent des Antilles, on va peut-être sortir des expressions qui viennent d'ici, puis de ça, puis qui va dénoncer aux Antilles, on a subi ça, on va parler de ça, mais au Maghreb, on n'a pas subi ça, on a subi ça, on va parler de ça. Fait que là, c'est ça, l'espèce d'héritage immatériel qu'on pourrait éplucher à travers la provenance de nos artistes.
Puis cette culture-là, au début, est-ce que c'était que consommé par les personnes qui la produisaient ou il y avait quand même, puis là je le mets entre guillemets, là, des jeunes Parisiens qui n'étaient pas de deuxième génération d'immigrants qui l'ont consommé? Est-ce que ça, ces personnes, parce que je sais par exemple que des fois quand il y a des cultures underground comme ça qui apparaissent un peu partout, il y a une génération avant ou deux qui vont dire « Oh mon Dieu, là, c'est l'enfer que les jeunes s'adonnent à ces choses diaboliques. »
J'ai l'impression que rapidement... Bon, là, je prends les mots un peu de Joe Estar, un chanteur de NTM. Il dit... C'est vulgaire ce qu'il dit. Non, mais en fait, les fonctionnaires ou les personnes âgées, on dirait que ça va être les premiers irrités. Les jeunes... C'est une bonne question, puis je connais pas vraiment la réponse. Est-ce que les jeunes parisiens... de 16, 17, 18 ans ou 25 ans, est-ce qu'il accroche tout de suite? Je sais pas. Est-ce qu'il est trop dérangeant? Peut-être que non. C'est une bonne question. Si à partir de quand...
Oui, mais ouais. C'est à savoir parce que ça peut aussi peut-être donner un indice sur jusqu'à quel point il y a une répercussion de cette culture-là comme dans Paris, mais pas juste dans le Paris des deuxième génération immigrants. Mais ça aussi, c'est comme Paname. Ça aussi, ça peut être un sujet à développer.
Parce que là, les rappeurs, les rappeurs de cette période-là... Mais tu sais, Dynasty, il est parisien. Parisien, là.
OK.
Parisien au coton, me semble. Fait que là, bon, il y a des parisiens qui s'adonnent. Mais là, Dynasty, on a-tu la chance? On va partir sur Dynasty.
OK.
Dynasty, bon, si on revient dans les débuts, là, l'idée de 1978, Dynasty part à New York, dans le Bronx ou à L.A., pour ramener la positivité que le mouvement hip-hop pourrait apporter aux jeunes de banlieue. Puis lui, il était rentré en contact avec Afrika Bambaataa. Afrika Bambaataa, c'est un des précurseurs du hip-hop dans le Bronx, mais c'est également un homme qui a mis sur pied l'idée de la Nation Zulu, la Zulu Nation. Puis la Zulu Nation, c'est un mouvement qui veut prendre toute la violence que les jeunes, les Afro-Américains subissent dans les ghettos et ne plus prendre cette haine-là puis faire des actes violents physiquement. Ils veulent prendre cette violence-là puis ils veulent se défouler à travers la danse, la musique. Ils veulent pas de consommation de drogue. Ils veulent pas... Tu sais, il y a vraiment des lois Zulu. Puis la Zulu Nation, c'est hip-hop. Puis on veut vraiment arrêter de faire ça pour reprendre notre haine puis faire ça de quoi de pacifique. Puis le mouvement hip-hop, ça veut être pacifique, mais en même temps, c'est clairement pas tout le monde qui va être Zulu.
Ouais, mais c'est comme dans Rock'n'Roll.
C'est quoi ça? c'est un film?
Hey, Rock'n'Roll, mais c'est parce que... Excusez-moi, si c'est... Mais en même temps, Rock'n'Roll, t'as jamais écouté.
Mais ça me dit de quoi le nom?
Puis je me sens que j'ai dit la même chose à Fégel.
Quand, mais c'est qui Fégel?
Félix Gélina qui
finissant au bac.
Finissant au bac, qui a fait un épisode avec nous sur les Augustines. On a parlé Fégel. De Rock'n'Roll. Fégel, c'est pas tout le monde qui sait.
C'est les intimes. Excusez-moi. C'est les intimes.
Non, mais on a parlé de Rock'n'Roll puis j'ai dit la même chose. T'as pas écouté Rock'n'Roll, mais Rock'n'Roll, c'est un monument.
C'est un masterpiece.
Oui, avec Whoopi Goldberg.
Oh! Ouais, c'est pas facile à dire.
Whoopi! Whoopi. Whoopi Goldberg.
Whoop his ass.
Whoopi!
Mais le film rassemble les gens d'un quartier défavorisé dans un chant de chorale.
Ouais, plus que t'en parles, plus que là, ok, oui. Mais j'écoutais ça, j'avais 4 ans, là. En tout cas, je sais pas si les calculs sont bons, là, mais je me rappelle plus du film. Mais je vois la pochette, ils sont pas un peu...
Yep.
Ouais, c'est ça. Yep. Ils courent, là, sa pochette, ou ils sont en chorale? C'est quoi la pochette de la cassette? C'était cassette?
Ben, ouais, il y en a un, deux, mais Whoopi Goldberg bon, est sur l'avant-plan, puis elle, justement, dans un espèce
ouais,
de
danse, là, ouais.
Mais elle dansait dans sa chorale aussi. Mais ça, ça serait un autre... Ça pourrait être en fait, ça pourrait être l'objet d'un autre balado complet sur... Le chant de chorale aussi pour les communautés afro-américaines. Mm-hmm. Parce que c'est vrai que...
T'es présent dans le... Ice Cube, s'il y a donne.
Mais moi, je vais parler de mon...
Ghetto Gospel, c'est une chanson.
Mais dans, tu sais, dans tous les films, là, on voit genre l'église là, avec les Afro-Américains à l'intérieur. Puis c'est, ça a l'air d'être la chose la plus sick au monde.
Oh, t'as le goût d'être en avant.
Ben, tu sais, c'est comme juste. Puis là, encore une petite référence, peut-être Netflix des années. D'un enfant des années 2000, mais comme Sex Education. Avez-vous écouté ça?
Moi, non.
Mais c'est cool, mais le chant de chorale, t'as le goût de.
T'as le goût d'être là!
T'as le goût d'être là, c'est
le
cool.
Le goût de vibe, oui.
Puis même si c'est pas du hip-hop, ça reste de la musique.
Ben, tu vois, là, l'héritage, on pourrait parler d'héritage immatériel. Clairement, le gospel, c'est quelque chose. On va dire, c'est quelque chose. Puis c'est quelque chose-là, ben. Il est présent dans le hip-hop américain. Il est-tu présent en France? Je pense pas. On dirait pas. Je pense pas. Enfin, je dis ça de même, là, je vous regarde, puis vous avez pas de réponse à ça, mais tu sais, c'est là-bas, c'est fait de même. Ça crée de, selon le milieu, puis l'année où t'es, ça crée de l'inconnu. Là, j'avais, puis là, j'essaye de me rappeler c'est qui dit ça, là, ça crée de l'inconnu. Il me semble que c'est avec Martin Paquette. Et puis au cours projet de mémoire. Au cours projet de mémoire, il nous avait parlé d'un historien qui dit... Il nous présentait des scientifiques, un historien ou une historienne, je sais plus, qui disait tel phénomène, combiné à tel phénomène, ça crée de l'inconnu. Puis je trouvais ça tellement... Ben, c'est une bonne réflexion, là.
Ah, mais c'est vrai que c'est une bonne réflexion de... Ben, la réflexion de créer de l'inconnu, puis c'est ça qui amène, au final, le désir de créer plus en histoire, en fait. C'est des questions comme nous, on se pose en ce moment... qui amène d'autres questions, puis d'autres questions, puis d'autres questions, parce qu'on a envie de savoir d'où on vient, puis d'où les autres viennent aussi. Fait que ça crée de l'inconnu.
Deuxième dégât.
Ouais, deuxième dégât, mais là, celui-ci était
sur moi.
Gênant. Ouais. Tu sais, c'est comme, t'essaies de prendre une gorge.
Une petite vague, là, puis tu le chess.
Ouais, puis tu fais comme un... petit tsunami dans ton ventre, ouais. Là, ça torponne.
Un petit remous, là. Ouais.
Ouais, c'était chic. Je suis désolée que vous ayez manqué ça, parce que Rose avait une réflexion profonde sur le rôle de l'historien, puis Antoine, ça garochait du vin dessus.
Mm-hmm.
Mais le vin est excellent, shout-out à...
Ben, c'est du vin blanc d'Alsace, gang.
D'Alsace.
D'Alsace.
Oh, wow.
C'est du Riesling.
Wilm.
Je l'aime ça dans le
Wilm.
Riesling.
Riesling de Wilhelm.
C'est Wilhelm, ce que tu sais, comment tu dis ça? Tu le dis-tu à l'allemand ou à la française? À l'allemand ou à la française? Wilhelm. Ouais, moi aussi, j'aurais tendance à dire ça.
Tu vois, moi, je
veux Wilhelm. Wilhelm. C'est parce que c'est W-I-L-L-M, fait que ça. Wilhelm.
Bon, oui. Ben, bon.
Wilhelm, ça se dit mieux.
Mm.
Là, on arrive.
Oh, on est verbeux, là, puis on est pas on loin est... dans la présentation.
Ouais.
Y a-tu un temps à ta cassette?
Non, mais il n'y a pas...
Genre une heure à l'arrêt, là.
Pas de temps limite, mais on essaie de faire des balados d'une heure.
Il est boboy.
Mais là, il nous resterait 10 minutes pour parler de...
17 autres questions. Je savais que ça allait faire non même.
Mais ce qu'on peut faire, tout simplement, les amis, là, c'est de conclure pour cette semaine, puis... cette semaine... Puis,
T'as fini avec quoi? T'as fini?
Non, mais on
parce qu'il y avait trois parties.
Non,
mais il y avait trois parties au plan de la séance.
Oui.
On avait-tu fini par la dernière de la première? Parce que clairement, on était encore à la première partie.
Je pense qu'on va couper,
c'était pas
On est à l'introduction.
Hein? On est à l'introduction! Et.
Donc, j'aimerais. Peut-être qu'on a coupé peut-être pas les dernières minutes, mais j'aimerais simplement souligner qu'on est à maintenant 50
ça
minutes et nous sommes à l'introduction. Donc, si vous trouvez que à l'épisode 2...
Oh, mais c'est tout le temps ça. C'est tout le temps ça que...
Dites que c'est à cause
on fait
de,
un épisode 2 live?
De Wilm ou Willem.
Okay, okay.
Willem. C'est à cause de Willem.
C'est lui le tannant.
C'est lui le tannant. Mais ça va nous faire plaisir de vous retrouver dans une deuxième épisode, peut-être un peu plus courte, on l'espère.
Oh, ça va être concis.
Ça va être concis. et puis, on vous dit bye la gang.
Bye.
Bonne soirée.
Journée,
matin, soir, peu importe quand vous
l'écoutez. Bye!
Façon, il est trop tard, tous les bâtards cherchant la paille en auront bientôt marre. Les laissant dans l'abandon, je repars avec l'obsession. D'éliminer des traits sans sommation, les confusions. Fait, t'es parfait, c'est net pour eux, le fait est la défaite. Inutile de tenir tête, je recommande la retraite. Face aux fausses craches, je réponds ma traque des classes à coups de face. Quoi qu'il fasse, nous ferons face aux menaces. Faites place, je glisse tel un patineur sur la glace. Alors,
n'ai rien à faire. Seul le monastère, seul le monastère, seul le monastère, seul le monastère où se tait. Dans le respire, soit gravé à jamais, nique ta mère.